Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est l'Intégral Foot et nous sommes ensemble jusqu'à 20h aujourd'hui avec mon fidèle compagnon. Il est là, membre de la Dream Team RMC Sport, Sébastien Piocelle. Salut Seb.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Alors Seb, évidemment, l'événement de la soirée, c'est le tournant du championnat qui nous attend au Parc des Princes. Le PSG, leader de Ligue 1, accueille son dauphin, le RC Lens. Paris serait quasiment assuré de titre en cas de succès. Lens peut revenir à 3 points en cas de victoire. Nos débats d'ici 20h. Est-ce que le lourd contexte qui entoure cette rencontre va porter préjudice aux Parisiens? Le match dépend-il uniquement de la performance de Kylian Mbappé, ou alors est-ce que le Racing Club de Lens a raison d'aborder ce match sans pression? Si vous voulez participer avec nous, le même réflexe que d'habitude, 32-16, vous le composez pour participer, pour venir poser vos questions et interpeller Sébastien Piocelle. Et il y a également du live, évidemment, ce soir sur RMC, avec la Ligue 2, la 31e journée qui vient de partir. Dans un instant, on prendra la direction de Bonal pour Sochaux, Pau, Furian pour Bastia, Annecy. Tous les autres matchs seront suivis par Johan Bredov. Salut Johan.
Salut les gars, salut à tous.
Je rappelle les affiches que tu vas suivre. Caen, Paris FC, Nîmes, Le Havre, Guingamp, Amiens, Quevilly-Rouen, Dijon, Rodez, Laval ou encore Valenciennes, Niort. En Ligue 1, je vous rappelle la victoire de Rennes face à Reims, 3-0. Il y aura également ce rendez-vous à 19h45, le rendez-vous du samedi soir, les infiltrés de RMC. On sera en direct avec Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain nantais, en veille d'Auxerre, Nantes. Et puis on aura également du tennis avec la deuxième demi-finale de Monte-Carlo entre Sinner et Rune. C'est parti pour l'Intégral Foot. Et on y va, justement, sur les pelouses de Ligue 2, la 31e journée. Ça a déjà bougé, le score est déjà ouvert à Furian entre Bastia et Annecy. Salut Julien Pernitch.
Et salut, et oui, Bastia qui a marqué au bout d'une minute de jeu ici à Furian, avec Franck Magri qui a été très bien lancé sur le côté gauche et qui a réussi à tromper le gardien adverse. Et donc 1-0 pour Bastia au bout de 5 minutes de jeu face à une équipe d'Annecy qui tente de réagir et qui va avoir un corner. Mais c'est vrai que les Bastiais, ils veulent rien lâcher malgré la défaite à Bordeaux la semaine dernière, et ils ont très bien commencer leur rencontre, Benoît.
Exactement, donc le buteur c'est Magri, hein, c'est ça?
Tout à fait, Franck Magri, oui.
Ouais, parce que tu sais qu'il y a des problèmes au niveau du diffuseur, il y a des mouvements de grève au sein des diffuseurs, voilà, pour protester contre la réforme des retraites. Donc les premiers quarts d'heure sur les différentes pelouses sont filmés avec uniquement une caméra fixe, donc on a du mal à voir pour l'instant les buteurs. D'ailleurs, le choc de ce soir, si vous souhaitez le regarder à la télé, entre le PSG et Lens,
là le match, on dirait qu'il est filmé avec un portable.
Hein, exactement, c'est filmé à l'iPhone, voilà, un iPhone fixe, et voilà, c'est à distance. Bon, on pourra s'y faire. Ça ne va pas durer l'intégralité de la rencontre, je vous rassure. Allons à Bonal, on le disait. Sochaux reçoit Pau. Sochaux qui est quatrième et qui voit ses espoirs de monter renforcés, parce que cet après-midi, Metz a battu Bordeaux 3-0. Tout est relancé en haut du championnat et Sochaux doit impérativement l'emporter face aux Palois. Salut Sébastien Ruffet.
Salut Benoît, salut à tous. 6 minutes de jeu ici au stade Bonal. Et ouais, effectivement, ce match, il change beaucoup de choses, hein, ce match entre Metz et Bordeaux, puisqu'en cas de victoire face à Pau, eh bien, les Sochaliens reviendrait à un petit point des Bordelais, bien sûr. Alors les Messins sont dans une bourre incroyable en ce moment, mais attention, la frappe de Gaëtan Weisbeck là, qui est déviée par un défenseur. Ça a failli aller chercher la lucarne de Jérôme Prior. Des Sochaliens qui sont bien entrés dans cette partie, qui mettent un petit peu de pression. Il y a eu une première situation sur un corner mal renvoyé tout à l'heure, une reprise d'Abdallah Ndour. Ils sont pas mal pour l'instant, et on n'oubliera pas qu'à l'avant-dernière journée, il y aura un Sochaux-Metz, et si ces deux équipes continuent à se suivre comme ça, ça va valoir très très cher. Mais effectivement, après ce résultat messin, une victoire des Sochaliens relancerait complètement cette course à la montée. Alors qu'on le disait un petit peu, ouais, peut-être un petit peu décroché, un petit peu, voilà, ça allait être compliqué. Et non, ils sont toujours dans le coup, ces Sochaliens. On joue depuis 7 minutes et les Palois, un mot quand même sur eux, puisqu'ils n'ont que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Important de venir prendre au moins un point ici dans cette course au maintien, bien évidemment, okay, pour ces Palois qu'on n'oublie pas. 7 minutes 15, toujours 0-0 entre Sochaux et Pau.
Johan Bredov, pas de but sur les autres pelouses pour l'instant?
Non, pas de but. Si tu veux, je peux te redonner les affiches.
Un coup de trompette, peut-être.
Nîmes-le-Havre, Valenciennes-Niort, Rodez, Laval, Quevilly, Rouen, Dijon. Et ensuite, on a deux matchs sans grands enjeux, hein. C'est Caen, Paris FC et Guingamp face à Amiens.
Tiens, on a également du tennis, évidemment. C'est le début de la saison de terre battue. C'est à Monte-Carlo que ça se passe, le Masters 1000. Évidemment, la deuxième demi-finale oppose Jannik Sinner, Holger Rune. Évidemment, c'est commenté par la voix du tennis, l'excellent Eric Salio. Salut Eric.
Salut Benoît. Ouais, mais je peux te dire que là, c'est pas un décor de carte postale, hein. Il pleut, il fait froid, ça joue quand même, parce que, on est sur terre battue, donc pour l'instant, c'est jouable, mais c'est un drôle de match.
Il fait plus beau à Sochaux qu'à Roquebrune-Cap-Martin. Incroyable.
Ah, totalement, je confirme.
Ce matin, il faisait très beau, je peux vous le confirmer, mais là, depuis 16 heures, c'est horrible, et ça donne un match un peu décousu. Sinner a livré un premier set fantastique, 6-1. Réaction immédiate de Holger Rune, il mène 3-0 dans la deuxième manche avec donc des conditions extrêmement compliquées, du vent, c'est froid.
T'as une écharpe?
C'est pour ça que, oui, j'ai mon écharpe. Mais moi, je suis à l'abri. Mais les spectateurs, là, j'ai peur d'une deuxième interruption, Benoît. Je te le cache pas.
Ah oui, carrément. Ok. Ah, oui, oui. On précise que le vainqueur retrouvera en finale Andrei Rublev, hein, le Russe qui a battu l'Américain Taylor Fritz en trois manches un peu plus tôt. 19h08 sur RMC. La tension monte déjà au Parc des Princes.
C'est bien fait pour Salis, la reprise de Salis. C'est la fin, c'est pas fini. Allez, ça circule bien là pour l'instant, les Parisiens arrivent à garder le ballon, on renverse le jeu côté droit, c'est bien fait avec peut-être la remise et le but de l'égalisation. Incroyable l'égalisation.
Ce sera un tournant surtout si Paris gagne, parce que ça voudra dire qu'ils auront 9 points d'avance sur nous, ils en ont déjà 8 sur Marseille, donc s'il y a encore des doutes sur le titre, ils seront joués.
C'est qu'on Fofana qui lance en profondeur pour Openda. Openda qui va y aller tout seul. Louis Openda face à Donnarumma. Ah, il se fait attraper dans le crochet, c'est parfait.
C'était un match important. Est-ce que c'est un match décisif pour le titre? Non, il en restera derrière 7. Mais évidemment, c'est un match important. Il faudra que l'on soit offensif, beaucoup plus offensif que sur les derniers matchs.
Attention, le ballon pour eux. Et le but. Incroyable de passivité, cette défense parisienne. Incroyable. Les Parisiens sont tête basse.
RMC Intégral Foot.
Un drôle de contexte pour cette affiche de la 31e journée de Ligue 1.
Et l'ouverture du score pour Pau ici au Stade Bonal avec la première incursion qui a marqué la base sur le côté droit. Je vais vous dire ça dans un instant avec un petit cafouillage au départ. On n'arrive pas à se dégager côté sochalien. Et puis ce ballon qui arrive là-bas sur le côté droit, il est poussé du bout du pied là par Bassoimina pour Eddy Sylvestre qui vient enrouler avec son pied gauche. Petit filet opposé, rien à faire pour Maxence Prévost. Et après 10 minutes de jeu tout pile, ouais, et bien c'est Pau qui ouvre le score ici. 1-0 pour les Palois face à Sochaux.
On vous le disait, donc l'événement ce soir, ce PSG Lens au Parc des Princes, 6 points d'écart entre les deux équipes au coup d'envoi. Paris est leader, Lens est deuxième. Évidemment, une victoire enverrait le PSG tout droit vers un 11e titre de champion de France. Le contexte est lourd côté parisien, semaine marquée par les accusations de racisme envers Christophe Galtier. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice hier. Des perquisitions ont d'ailleurs été menées au siège du club. Écoutez les propos de Christophe Galtier tenus hier sur le sujet en conférence de presse.
Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion.
Voilà, la mise au point de Christophe Galtier. Alors, c'est la question que l'on se pose ce soir à quelques minutes du coup d'envoi. On est à moins de 2 heures du coup d'envoi au Parc des Princes. Est-ce que le contexte va affecter les Parisiens? 32-16 pour participer au débat. Avant d'entendre l'avis de Sébastien Piocelle, on va y aller justement au Parc. Retrouver Arthur Perrault, suiveur du PSG au quotidien pour RMC Sport. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur. Est-ce que tu sais si justement ce contexte lourd a une incidence sur les joueurs? Est-ce qu'on en a parlé cette semaine? Comment ça s'est passé justement la digestion de ces révélations?
Eh bien, ça a été une semaine, oui, très compliquée.
Et
pour
le but Bastia.
Julien Bernich, on arrive Arthur.
Capitoco qui donne le 2-0 pour Bastia face à Annecy après une très belle percée sur le côté gauche de Thiem Tavares. Il avait donné ce ballon au centre à la surface à Capitoco qui avait échoué une première fois, mais qui la deuxième, la mise au fond. 2-0 pour les Bastiais qui sont en train de capitaliser sur ce qui se passe du côté de Sochaux par exemple.
Exactement.
C'est intéressant pour les Bastiais.
C'est vrai, 2-0 pour Bastia donc face à Annecy, 1-0 pour Pau à Sochaux, c'est la surprise. Johan nous tiendra informé des autres scores en cours en Ligue 2. Vas-y Arthur, sur la semaine passée par les Parisiens, évidemment une semaine lourde et particulière.
Oui, où Christophe Galtier n'a pas caché ses émotions du côté du camp des loges. Plusieurs habitués du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain nous a indiqué que voilà, il est apparu vraiment très marqué et d'ailleurs on l'a bien ressenti au moment de cette conférence de presse qu'on vient d'entendre hier et ce texte qu'il a minutieusement préparé. Ça fait depuis mercredi qu'il prépare cette intervention, cette première prise de parole qui était forcément très attendue. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'a parlé du sujet qu'à un seul joueur, c'est Kylian Mbappé qu'il a appelé mercredi personnellement et sinon il n'a abordé le sujet aussi qu'avec certains proches des membres de son staff. C'était lors du déjeuner là aussi du côté du centre d'entraînement mercredi. c'est vrai que après, il a fait état de cette contre-attaque, des différentes plaintes qu'il allait lancer. C'est vrai que pour avoir vu et assisté à la séance d'entraînement du côté du camp des loges hier matin, on a senti un comportement un peu inhabituel. C'est-à-dire qu'on l'a vu très impliqué, on l'a vu aller prendre les piquets et les donner là aussi au préparateur physique, à son adjoint, chose qu'il ne fait pas habituellement. Ce que l'on a pu remarquer également, c'est que à la fin d'un exercice, on a vu Sergio Ramos venir près de lui, lui donner une petite tape amicale dans le dos et prendre le temps d'échanger avec lui, chose qu'on ne voit pas habituellement non plus. Voilà, forcément le quotidien est légèrement perturbé, même si lui, il a expliqué très clairement qu'il s'était réfugié dans le travail et que la meilleure des récompenses qu'il a pu avoir au quotidien depuis la révélation de cette affaire mardi soir, eh bien c'est l'implication totale de ses joueurs à l'entraînement.
Alors, c'est la question qu'on se pose ce soir, à moins de 2 heures du coup d'envoi. Sébastien, à ton avis, toi qui as été joueur de haut niveau, est-ce qu'un tel contexte, ça pèse forcément sur les joueurs pour un match ou c'est pas une certitude?
Je pense qu'ils avaient même pas besoin de ça pour que...
Oui, déjà, le contexte sportif était délicat.
Au niveau du contexte sportif, quand tu as perdu 8 matchs depuis le début de l'année civile, dont 5 en championnat, et dont les 2 derniers à domicile notamment, et que tu as le Dauphin qui est en pleine bourre, qui a gagné de ses 4 derniers matchs, et qui vient chez toi et qui peut revenir à 3 points, déjà au niveau sportif, déjà tu peux avoir des doutes, et il peut y avoir un contexte assez lourd. Par rapport à Christophe Galtier, déjà je voulais juste faire une aparté, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans, qui a été mon coach à Bastia, notamment avec Gérard Gilly, qui est dans le milieu du football comme plein l'ont dit déjà depuis des années, donc ce genre de choses c'est quand même grave. C'est grave d'insinuer ou d'accuser une personne d'être raciste. En aucun cas de la personne que je connais, on a des amis très très proches en commun, et en aucun cas, je veux dire, même si peut-être que la vérité éclatera, mais je ne crois que Christophe Galtier soit de près ou de loin,
évidemment.
Oui, mais bon, c'est très très fort, c'est très très dur ce qu'il est en train de vivre.
C'est le tribunal public, comme le disait Didier Digard.
C'est très très dur. Donc oui, on a tous envie à un moment donné d'avoir quelque part des preuves, parce que là, franchement, moi, j'y crois pas et je me mets à sa place. Et quand on parle de se réfugier dans le travail, c'est ça. Si il change un petit peu, le football, c'est son quotidien. Donc forcément, s'il change un petit peu, là, Arthur en parlait par rapport à la séance d'hier, il fait certainement des choses pour aussi évacuer tout ce qui se passe depuis quelques jours, tout ce qui lui tombe dessus. Forcément que, au-delà de l'aspect sportif, c'est quand même quelque chose qui peut toucher les joueurs. Même si après ils vont être focus sur le match et qu'ils le sont déjà certainement, ouais. Et qu'une fois qu'on est sur le terrain, que l'arbitre a sifflé les 3 coups d'envoi, c'est parti. Mais le contexte général, forcément, en gros, ils ont tout à perdre.
Alors, on poursuit le débat dans un instant. Évidemment, il est 19h16, vous écoutez RMC, l'Intégral Foot, il y a de la Ligue 2 en cours, c'est la 31e journée. Arthur, tu restes avec nous parce que on se demande également quel accueil sera réservé à Christophe Galtier par le public parisien. Tu répondras à cette question dans une seconde. Juste le tour de direct, on rappelle le temps, le score entre Sochaux et Pau, Sébastien Ruffet.
16 minutes de jeu ici et c'est Pau qui mène contre le cours du jeu, 1-0 de but de Sylvestre à la 10e.
Entre Bastia et Annecy, Julien Pernich.
16 minutes de jeu, 2-0 pour Bastia face à Annecy avec des buts de Magri et de Djoko, une équipe de Bastia très sereine pour le moment.
Un but à signaler, je crois, Yoann Brenner.
Entre Caen et le Paris FC et le but décané, ça fait donc 1-0 pour Caen face au PFC à la 17e minute de jeu, mais c'est un match sans enjeu. Caen et le Paris FC qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison.
Mendy buteur, chose. Encore.
Voilà, Mendy buteur, évidemment. Ouais. Donc 1-0 entre Caen et le Paris FC, sinon pas de but entre Guingamp et Amiens, entre Nîmes et Le Havre, entre Quevilly, Rouen, Dijon, entre Rodez et Laval et entre Valenciennes et Niort.
Je vous rappelle qu'un peu plus tôt, Metz a écrasé Bordeaux 3-0. Le suspense s'est relancé dans la course à la montée. Puis en Ligue 1, victoire 3-0 également de Rennes face à Reims. On continue l'avant-match justement de ce PSG Lens dans un instant. Arthur Perrault au Parc des Princes, Sébastien Piocelle à mes côtés et vous au 32-16. A tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h19 sur RMC l'Intégral Foot. Évidemment jusqu'à 20h avec Sébastien Piocelle. On suit la 31e journée de Ligue 2 et surtout on poursuit l'avant-match de PSG Lens. C'est l'événement de la soirée sur RMC. Je vous le rappelle, le choc du championnat la 31e journée. Le PSG leader Lens, dauphin du PSG à 6 points. Soirée exceptionnelle dès 20h. Avant-match, match et after en direct du Parc des Princes avec Thibaut Giangrande, Roland Courbis et Jeannot Séguier notamment. Et puis je serai là pour la libre antenne avec Julien Cazard. Événement également à ne pas rater. Minuit 1h, Julien Cazard sera là pour débriefer ce fameux PSG Lens. Le tour de nos directs, juste vous signaler que c'est la partie est suspendue, la demi-finale de Monte-Carlo entre Rouneux et Sinner. Voilà, il pleut pour l'instant sur les cours de Monte-Carlo. Le tour des directs avec la Ligue 2. Le temps, le score entre Sochaux et Pau, s'il te plaît, Sébastien Ruffet.
Et ben 20 minutes de jeu, tout rond ici à Bonal et toujours 1-0 pour Pau, le but de Sylvestre à la 10e.
Même chose entre Bastia et Annecy, Julien Pernich.
20 minutes de jeu, toujours 2-0 pour Bastia face à Annecy avec des buts de Magri et de Djoko. Les Bastia qui continuent de pousser.
Des buts, monsieur Brenov.
Un seul entre Caen et le Paris FC. 1-0 pour les Canets, le 15e but de la saison d'Alexandre Mendy. Sinon, pas de but sur toutes les autres pelouses.
Alors, Arthur Perrault est toujours avec nous en direct du Parc des Princes. Et c'est la question qu'on se pose. On parlait du contexte juste avant avec Sébastien Piocel. Parle-nous de l'accueil qui attend Christophe Galtier ce soir. Les relations n'étaient déjà pas au beau fixe entre le coach et les supporters du PSG. Est-ce qu'on peut craindre des sifflets pour Galtier suite à tout ce qui s'est passé cette semaine, à ton
avis?
Alors,
pour avoir beaucoup échangé avec des proches du virage Auteuil ces derniers jours, c'est vrai que, et d'ailleurs, ils l'ont exprimé via un communiqué publié en milieu de semaine, eux attendent qu'il y ait des preuves, que l'enquête qui est menée par l'entourage du président Nasser El Khelaïfi confirme ou non les dires qui sont rapportés encore une fois par Julien Fournier dans ce fameux mail confirmé par l'Afterfoot. Donc voilà, vraisemblablement, il ne devrait pas y avoir de sifflet à l'encontre de Christophe Galtier. Après, attention, là c'est une petite information que je vous glisse, ce ne sera sans doute pas le cas pour Lionel Messi, qui avait été déjà copieusement sifflé lors du dernier match ici au Parc des Princes, c'était face à Lyon. Voilà, l'accueil risque une nouvelle fois d'être un peu compliqué pour Lionel Messi. Et puis une précision importante, messieurs, c'est qu'il y a un huis clos partiel dans ce virage Auteuil ce soir, sous mes yeux. Il y a d'ailleurs des balises qui sont déjà tendues dans cette tribune, dans ce virage, et une grande partie de la tribune basse du virage Auteuil sera fermée. C'est une sanction de la commission de discipline qui fait suite aux 15 ans de la casse aux Steam célébrée lors de ce match face à Lyon, un des groupes de supporters parisiens.
Ça pourrait être le paradoxe de la soirée, c'est-à-dire que Messi pourrait être beaucoup plus sifflé que Christophe Galtier.
Alors, c'est possible.
Semaine, on s'est concentré sur Galtier et sur toutes ces accusations, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez des informations complémentaires, tout le dossier est sur rmcsport.fr. Comme ça, vous ne ratez rien. Sébastien Piocel est toujours là. On accueille Gabriel qui a composé le 32-16. Salut Gabriel.
Oui, bonsoir à vous deux.
Salut Gabriel. Quel est ton avis, toi, sur cette question? Tu es supporter parisien, Gabriel. Est-ce que tu penses que tout ce qui s'est passé cette semaine, ça aura une influence sur le terrain ce soir?
Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est le PSG. Je pense que les joueurs sont habitués au battage médiatique autour du club, quelles que soient les circonstances. Il y a eu plein de choses qui sont passées depuis qu'ils sont tous là, à part peut-être pour ceux qui sont arrivés cette année, mais je pense que tous les autres, ça va pas les toucher. Après, pour l'instant, on est toujours sur des présomptions. C'est pas la première fois qu'il y a un problème entre Fournier et Galtier, où d'ailleurs Fournier s'était déjà fait bâcher. Souvenez-vous, je crois que c'est l'an passé où il avait balancé des trucs, qu'au final, il s'était rétracté.
C'était sur RMC en septembre. Il avait dit si je dis tout ce que je sais à propos de Christophe Galtier, il n'en parlera plus en Europe. Voilà, c'est ce qu'il avait dit.
Ça va beaucoup plus loin. Au final, il s'est rétracté, ça a amené nulle part. Donc non, je pense pas que ça influe. Je pense pas que ça influe sur les joueurs. Les joueurs sont à mon avis, au-dessus de ça. En plus, eux, ils sont avec le coach au quotidien. Donc à moins qu'effectivement, en imaginant que ça soit vrai, ils aient subi ça, ça pourrait influer, mais j'y crois pas. J'ai pas le sentiment que les joueurs sont contre l'entraîneur, qu'après eux, au niveau du jeu, ça soit pas ça, c'est un autre débat. Mais j'ai pas le sentiment que dans le relationnel, il y a quelque chose qui est changé avec les joueurs. Donc moi j'ai du mal à y croire à ce truc-là. Ça me paraît un peu gros, je trouve. Enfin surtout la façon dans laquelle c'est dit. Peut-être qu'il a dû expliquer qu'à un moment donné, avoir trop de joueurs d'une certaine communauté avec la CAN, tout ça, ça aurait pu poser problème. Mais ça, c'est comme ça dans tous les clubs, et tous les clubs le disent. Ça pose de problème à personne.
Mais de toute façon, ça sera jamais prouvé, ça, Gabriel, puisque dès l'instant où il y a un mail, il n'y a pas d'enregistrement, a priori.
Après, les perquisitions sont menées, ont été menées hier au siège au Genève.
Qu'est-ce que tu peux prouver, en fait?
Peut-être qu'il y a des propos par mail, tenus, ou, ouais.
Voilà, le vrai truc, c'est qu'en fait, a priori, de ce que j'ai dit, si j'ai bien compris l'histoire, que je disais à rien, c'est qu'en fait, ce sont des propos que lui rapporte par mail qu'il a entendu de Galtier. Donc il n'y a pas d'écrit.
Ça sort d'une conversation, il n'y a pas de preuves matérielles.
C'est pas un mail de Galtier, c'est un mail de Julien Fournier.
Par ma profession, je vous le dis, ça ira nulle part.
Okay. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose?
Juste une petite image à vous raconter qui vient de se produire. Le bus parisien vient d'arriver et puis on a vu Christophe Galtier sortir en premier avec Luis Campos. Et vous savez, il passe par le tunnel qui mène directement en dessous le Parc des Princes. Et on a vu compose, voilà, prendre le temps de s'arrêter avec Christophe Galtier, le tenir par l'épaule et puis échanger un petit sourire. Donc voilà, les deux hommes et Christophe Galtier plutôt décontractés avant ce match face à Lens.
Évidemment, deux hommes qui sont très proches, hein, depuis leur passage à Lille notamment. Luis Campos et Christophe Galtier sont liés depuis qu'ils sont réunis également au PSG. Dans la question que je voulais te poser, Seb, aussi, c'est que, ok, les joueurs ne seront pas forcément affectés, ça se verra pas forcément sur le terrain, mais comment le vit Christophe Galtier? C'est ça la question aussi. Il a vécu une semaine terrible. Il y a eu ce retour à Nice qui s'est mal passé d'ailleurs avec les supporters, l'incident au niveau de la banderole. Il a dû digérer ça aussi cette semaine. Les propos ont été rapportés mardi. Pour lui aussi, humainement, c'est dur. Est-ce que ça peut aussi influer sa façon de coacher, son attitude ce soir? Tu vois, parce qu'il sera scruté, Christophe Galtier, évidemment.
En fait, justement, souvent on se réfugie dans le travail. C'est aussi une manière.
Il sait qu'il sera observé.
Non, mais il y en a,
tu vois,
par exemple, il y en a quand, c'est mon cas, moi, quand tu es pas bien, tu te dis, je vais courir, par exemple. Tu vois, tu t'aères un peu le cerveau. Lui, il se réfugie dans le travail. Je pense qu'il a vécu une semaine très, très compliquée, mais quelque part, depuis des semaines, c'est compliqué par rapport aux résultats sportifs. Ouais. Là, c'était entre la banderole, entre les accusations. C'est vrai que c'est une semaine très dure avec, en point d'orgue, ce match face à Lens qui pourrait être une catastrophe quelque part, enfin une mini catastrophe s'il y a une défaite face à cette équipe de Lens. Donc je pense que par rapport à ces joueurs, l'idée c'est de le montrer le moins possible, en tout cas, c'est-à-dire d'être assez dynamique, de peut-être même quelque part aussi de rigoler. Quand Arthur parlait de l'image avec Campos, peut-être que c'est pas anodin qu'il ait par l'épaule, voilà, le fait d'être tous unis. Et pour revenir au niveau de la pression, de toute façon, elle est là, la pression sportive, parce que quand on regardait le classement, ils ont pas trop le droit à l'erreur. Je veux dire, s'ils perdent ce soir,
c'est pour ça que c'est un tournant. C'est pour ça qu'on en fait beaucoup.
Sans parler de l'affaire Galtier, sportivement,
si le PSG gagne, on pourra considérer que le titre est acquis, hein, parce qu'il y a aussi l'avantage au niveau du goal average. Et puis là, il y aura 8 points d'avance sur l'OM.
C'est une manière d'assommer demain. Un petit peu.
Il y en aura désormais 9 sur le RC Lens. Effectivement, à cette journée de la fin, ça fera beaucoup pour le PSG. On remercie Gabriel qui est venu participer au débat avec nous au 32-16. Salut Gabriel.
Salut,
à bientôt.
Gabriel. Bonne soirée à tous. Ciao.
19h27 sur RMC, l'intégral foot, le tour de nos directs avec le foot, la Ligue 2, la 31e journée et ce Sochaux Pau qui est compliqué pour les Sochaliens, Sébastien Ruffet.
Hein. Ouais, 27 minutes de jeu, 1-0 pour Pau depuis la 10e minute et cette frappe là, il y a un petit instant de Erwin Kofi qui est monté de son poste d'arrière droit, qui prend sa chance. Il a 25-30 mètres, frappe un petit peu lobé comme ça, qui part, lucarne opposée, Maxence Prévost est battu, ça tape le bas de la barre transversale et ça ne franchit pas la ligne. On était à quelques centimètres d'un des plus beaux buts de la saison, clairement. Pour les Palois, côté Sochaux, on a vu une frappe tout à l'heure d'Ndiaye, entrée des 16 mètres, un petit peu contrée, qui a été captée par le gardien palois. Après un bon début de match, eh bien les Sochaliens s'effritent un petit peu au fil des minutes et les Palois, pour l'instant, eh bien sont un peu plus dans le confort après 28 minutes. Ils mènent ici 1-0.
Et les Sochaliens, à l'heure où on se parle, n'ont plus qu'un point d'avance sur Bastia qui est cinquième. La belle soirée bastiaise pour l'instant à Fourian face à Annecy. Ouais, Julien Pernich.
Et oui, 2-0 toujours pour Bastia face à Annecy avec des buts, on le rappelle, de Magri et de Djoko. Les Bastiais qui continuent à attaquer. Ils sont extrêmement sereins, les joueurs de Régis Brouard. On a l'impression qu'ils ont réussi à tourner la page du match compliqué à Bordeaux de la semaine dernière. Encore un instant, Kevin Van den Kerkhoff, qui est scruté par de nombreux clubs, qui a fait une grosse percée sur le côté droit, qui a mis un tir qui est passé le long de la ligne de but de Florian Scalès. Et de leur côté, les joueurs d'Annecy qui payent peut-être leur accumulation de matchs. Ils avaient joué une demi-finale de Coupe de France. Ils ont joué l'année dernière championnat à Valenciennes en gagnant un match très important pour le 20e. Pour le moment, ils sont dans le dur, les joueurs savoyards, pas très actifs et puis surtout friables défensivement, mais en tout cas pour les Bastiais, pour le moment ça se passe extrêmement bien. 2-0 pour les Bastia du côté de Fourian.
Merci Julien. Les autres pelouses, Johan, il y a des buts?
Un seul but toujours, quand qui mène 1-0 timide, face au Paris FC. Ouais, c'est timide à la demi-heure de jeu. C'est Alexandre Mendy, hein, qui a marqué son 15e but de la saison pour les Canets. Sinon 0-0 partout ailleurs.
19h29, on remercie Arthur Perrault qui était avec nous en direct du Parc des Princes. C'est Jeannot Rességuier qui va lui succéder. On va parler du RC Lens dans un instant. Parlons de sportif, Sébastien Piocel. Juste après la pause, on en parlera justement. Le Racing Club de Lens aborde ce match sans pression. Est-ce qu'ils ont raison, les Lensois, de voir ce match comme un bonus? A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h33 sur RMC, l'Intégral Foot. Évidemment, on fait monter la sauce avant ce PSG Lens décisif en Ligue 1, la 31e journée.
Deuxième but pour
Pau. Il y a début en Ligue 2, on arrive effectivement. Début notamment entre Sochaux et Pau, Sébastien Ruffet.
Et c'est Pau qui double la mise ici. 2-0 après 32 minutes de jeu. Après ce but signé Begraoui, la défense sochaine qui se fait d'abord un petit peu avoir dans la profondeur. D'abord un premier bon tacle d'Agouzoul sur Baswamina, mais qui se relève, qui regarde, qui voit arriver arrivée. Begraoui dans son dos, petit ballon en retrait et le plat du pied pour venir tromper Maxence Prévost qui la laisse passer un petit peu là sous le corps. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux le gardien Sochalien? En tout cas, il ne peut pas intervenir et ça fait 2-0. Ouais. Oh là, c'est, ça sent pas bon pour les Sochaliens ce soir. Il va falloir très très vite réagir. Ouais, effectivement.
Et le troisième but de Bastia.
Et le troisième but de Bastia.
Il y a deux minutes de ça, Benjamin Santé qui est allé marquer, qui est allé tremper Florian Escalès après avoir été très bien lancé par Franck Magri qui avait gratté un ballon au milieu de terrain. 3-0 pour Bastia face à des joueurs d'Annecy qui sombrent complètement, mais les Bastiais, ils sont en train de mettre derrière le match le Bordeaux très clairement. Ils font une très belle soirée ici côté de Fourrières.
Les attaquants ont marqué.
Exactement. Ouais, les buteurs marquent. On sent une équipe bastiaise libérée. Hein. C'est vrai que le match à Bordeaux c'était mal terminé. Je vous signale juste que le leader Havre est accroché pour l'instant à Nîmes. En tout cas, le Havre prend un point pour l'instant 0-0. D'autres buts à signaler, Johan?
Non, toujours Caen qui mène 1-0 face au Paris FC. But d'Alexandre Mendy à la 35e minute de jeu.
19h34 sur RMC, on vous le disait, c'est donc l'affiche ce soir, le PSG Lens. On a parlé de Paris et du contexte particulier qui entoure la rencontre des Parisiens. Parlons du Racing, Sébastien, et on va accueillir évidemment la voix du foot sur RMC. Jeannot Asseyer, salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot. Ça va Jeannot?
Salut Seb, ouais, très bien, impeccable. Je suis pas tout seul au Spark pour une fois.
Ah ouais, là vous
bien encadré, là, solide, en équipe. Ah bien ouais. Sur leurs appuis, tu vois. Ah ouais. J'ai un Thibaut Jean-Grand qui est à côté de moi, j'ai un coach Courbis qui est déjà bien en place.
Alors dis-moi, Thibaut, il est entre toi et Roland?
Ah oui, il peut pas faire autrement. Oulala, il est obligé d'être entre moi et Roland.
Ça va être un peu serré là.
Non, t'inquiète, il est fit, il est impeccable. On va s'occuper de lui.
Vous allez tenir chaud en tout cas. Parlons de Lens, Jeannot, parce que Lens est deuxième à 6 points du PSG. On le disait, il y a 4 victoires consécutives pour les joueurs du Racing.
Et un seul but encaissé.
Un seul but encaissé, c'est important de le signaler. Écoutons les propos de Francaise en conférence de presse cette semaine. Lui évidemment, il dit que c'est que du bonus. Et il parle également du contexte qui entoure les Parisiens pour cette rencontre. Évidemment, tout ce qui se passe autour de Christophe Galtier. Écoutez.
Bah en tout cas, de notre côté, ça prend pas le pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le match qu'on a contre le leader. Ce sera un tournant, surtout si Paris gagne, parce que ça voudra dire qu'ils auront 9 points d'avance sur nous. Ils en ont déjà 8 sur Marseille. Donc, s'il y a encore des doutes sur le titre, ils seront joués. Après, pour nous, on reste dans notre ligne droite, nous, pour aller chercher la meilleure place possible. En tout cas, notre objectif, c'est de bien rester focus sur la rencontre.
Voilà, l'humilité habituelle. Certains joueurs ont fait passer le message que c'était un match bonus. Sébastien, avant de t'entendre, rappelons juste, Jeannot, le contexte également sportif, parce que au niveau des confrontations directes depuis que Lens est remonté en Ligue 1, c'est avantage Racing d'ailleurs face au PSG. Hein.
Complètement. Et en plus, un Kylian Mbappé muet sur les 3 derniers matchs, ça aussi, ça a son importance. Lui qui a plus marqué, vous en parlez tout à l'heure, depuis 270 minutes dans ce championnat de Ligue 1. Alors c'est vrai que quand on regarde le comportement de Lens face au Paris Saint-Germain, on peut avoir quelques inquiétudes quand on sait que par exemple Paris a été battu à domicile par Rennes, a été battu à domicile par Lyon. Donc ça veut dire aussi que il y a ce retard de points qui reste quand même un élément important, et je pense qu'ils ont raison de dire que c'est un match bonus parce qu'en fait ils reçoivent Monaco, ils reçoivent Marseille derrière. Oui. Donc ils peuvent déjà penser à assurer la deuxième place à un moment précis de la saison. Le 22 avril on reçoit Monaco et le 6 mai on reçoit Marseille. Ce soir ils ont plus intérêt à être détachés, c'est à mon avis le management qui a mis en place Franck Haise, que de se retrouver à être sous pression. Un peu d'insouciance ne fait pas de mal non plus pour aborder ce choc et se laisser glisser la pression. C'est tout simplement évoquer le fait que Paris va avoir la pression. Eh oui. Lens n'aura pas la pression ce soir. Et qu'avec ces 4 victoires consécutives, qui plus est meilleure défense du championnat, face à la meilleure attaque, c'est à Paris de prendre des risques.
Lens, qui est l'équipe qui perd le moins dans ce championnat, seulement 3 défaites, tu as raison, en 30 journées. Seb, est-ce que c'est la bonne attitude? Et surtout, est-ce qu'à ton avis, c'est seulement un discours de façade? Est-ce qu'au sein du groupe, on y croit quand même à ce titre de champion de France?
Franchement, t'es obligé d'y croire. Quand t'as 6 points de retard... qui reste 8 matchs de championnat, donc et que tu vas affronter le leader, donc potentiellement tu peux revenir à 3 points. Et comme l'a dit Jeannot, en plus derrière, même si c'est des matchs compliqués face à Monaco et Marseille, bon, ils sont tellement dans une superbe dynamique, ouais. Pourquoi pas. Donc oui, alors c'est une manière aussi peut-être d'évacuer. Bien sûr, c'est une équipe, et j'ai envie de dire, c'est un club même insouciant. Alors c'est pas péjoratif, c'est simplement on sent que ça reste familial, et on le voit dans leur jeu en fait, c'est dynamique. Et puis je pense qu'ils ont fait un super mercato d'hiver finalement, avec très peu de moyens, ils ont été très bons là-dessus.
Vous imaginez que des garçons comme Thomasson et Fulgini sont quasiment titulaires depuis leur arrivée au club et ont le sentiment de déjà partager l'ADN de
Thomas du sportif de sur les quatre derniers matchs.
Ah, ils ont très très bien ciblé des joueurs qui connaissent le championnat, qui ont une super mentalité et donc c'est vrai que c'est une manière d'évacuer. Alors bien sûr qu'après il y a, je pense que dans son discours, je le crois quand même. Mais je suis sûr qu'il ne tient pas le même discours dans le vestiaire, c'est une certitude, parce qu'il doit appuyer là-dessus en disant que Paris, notamment sur les deux derniers matchs à domicile, c'est deux défaites en championnat, qu'eux, ils n'encaissent pas de but. Donc voilà, je pense qu'ils ont toutes leurs chances, même si ça sera pas un match simple. Par contre, en cas de défaite, bon, ils savent que derrière, ils peuvent toujours se rattraper.
D'ailleurs, 30 journées dans le top 4, hein, 11 fois dauphin de Paris, 9 plus 2, puisqu'ils ont repris cette place de deuxième à la 29e journée. Ils ont même eu que 3 points de retard, souvenez-vous, lors de la 19e et 20e journée, c'était après la Coupe du Monde, après les deux défaites du Paris Saint-Germain, dont le 1er janvier du côté de Lens. Donc voilà, ils ont des chiffres qui parlent pour eux, et ils ont surtout une référence, c'est le match aller. S'ils restent sur une base solide d'un collectif qui ne lâche rien, le jeu rapide qu'ils avaient utilisé, la verticalité qui avait fait énormément de mal au PSG, moi je ne serais pas étonné que Lens pratique ce même jeu ce soir pour le match retour au Parc.
Et ça sera passionnant à suivre. Évidemment, coup d'envoi dans 1h20 sur RMC de ce PSG Lens. Je vous rappelle la photographie du classement. Le PSG leader avec 69 points. Lens est deuxième avec 63 points. Troisième, Marseille avec 61 points. Et quatrième, Monaco avec 58 points. Donc on parlait également de course à la Ligue des Champions. En cas de bons résultats et même de victoires possibles pour Lens, ce serait également un grand pas fait vers la Ligue des Champions la saison prochaine. Merci Jeannot, on te laisse te reposer. On te retrouve dans l'avant-match dès 20h. Évidemment, 20h minuit, c'est l'événement sur RMC ce soir. Avant-match, match et after en direct du Parc des Princes. Thibaut Giangrande, coach Courbis sont déjà sur place. Nous auparavant on fait un tour de nos directs avec la Ligue 2, la 31e journée et ce Sochaux-Pau qui est surprenant. Sébastien Ruffet,
il reste 5 minutes avant la mi-temps et les Palois qui mènent ici 2-0 et peut-être attention ce centre là qui va arriver dans le deuxième poteau pour des Palois qui à chaque fois qu'ils sont en position offensive ils sont dangereux, même quand ils sont à 2 contre 4, c'est assez incroyable, alors que les Sochaliens malgré des bonnes phases de possession, de pression sur la défense paloise, eh bien sont toujours un petit peu maladroit dans le dernier geste, cette dernière passe qui n'arrive pas à la frappe, qui n'est pas cadrée la tête, qui s'échappe un petit peu. C'est ce qui leur manque pour l'instant, mais voilà, les Palois sont maintenant dans leurs chaussons. Hein, voilà, ils sont avec leurs deux lignes de 4 devant la défense, ils mènent 2-0 tranquillement et ils vont attendre la mi-temps comme ça, 2-0 pour Pau ici à Bonal.
Bastia face à Annecy. Avec toi, Julien Pernitch.
Eh bien, 41 minutes de jeu, toujours 3-0 pour Bastia face à Annecy, des Bastiais qui continuent d'attaquer, qui sont vraiment intouchables pour le moment par une équipe d'Annecy qui est en train de passer à côté de son match, qui ne montre rien. 14 buts encaissés en 4 matchs à l'extérieur pour Annecy, ça montre qu'elle a vraiment des problèmes hors de ses bases, cette équipe savoyarde. Mais pour le moment, match de rêve pour les Bastiais ici du côté de Fouriagne, donc toujours 3-0 pour Bastia contre Annecy.
Et puis les autres matchs, Yohan Bredov.
Il y en a eu des buts quand même, toujours 1-0 face au Paris FC. Guingamp a marqué également face à Amiens, c'est Courtet qui a permis aux Guingampais d'ouvrir le score 1-0 et surtout un but très important entre Rodez et Laval, les Ruthénois qui mènent 1-0 grâce à Corridor. Rodez qui est 14e, Laval qui est 17e, premier relégable. Pour l'instant, Rodez fait un grand pas vers le maintien, 1-0 entre Rodez et Laval.
Et oui, Corridor, joueur de couloir évidemment. Merci. On revient dans un instant, dans moins de 2 minutes, les fins de première période en Ligue 2 et puis l'infiltré des RMC, ce sera Samuel Moutoussamy, le Nantais en veille de Auxerre-Nantes. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h45 sur RMC l'Intégral Foot dans un quart d'heure avant match spécial PSG Lens. Évidemment, c'est l'affiche de cette 31e journée de Ligue 1, le tournant de la fin de saison. On sera en direct du parc avec Thibaut Giangrande, avec Jeannot Rességuier, avec coach Courbis et vous au 32-16. La soirée se poursuivra jusqu'à 1h du matin, puisque de minuit à 1h, on sera là pour la libre antenne, avec Julien Cazard. Le tour de nos directs, la Ligue 2, la 31e journée. C'est la mi-temps à Bastia, mi-temps de rêve. Julien Pernitch pour les Bastiais.
Oui, 3-0 pour les Bastiais face à Annecy avec Magri, Djoko et Santil. La ligne offensive bastiaise qui a marqué et qui a failli encore marquer un quatrième but il y a quelques instants. Ça veut dire que là, les Bastiais, vraiment, ils marchent sur l'eau ce soir face à des joueurs d'Annecy qui sont absents de ce match, très clairement. Ils ne montrent rien et les Bastiais en profitent. Ils sont sérieux, offensifs, réalistes. Et donc, pour le moment, avec ce 3-0, eh ben, les Bastiais montrent qu'ils n'ont pas abandonné le rêve de Ligue 1, même s'il est tout petit maintenant, ils n'ont pas abandonné. Hein.
On peut rappeler le classement, d'ailleurs. Merci. merci hein, Julien, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Bastia 5ème avec 5 points de retard sur le 2ème Bordeaux, donc il reste 7 matchs. C'est pas impossible, ça sera compliqué, mais c'est pas impossible. Le coup franc pour Pau à Sochaux, peut-être le 3-0 pour les Palois, Sébastien.
Eh, c'est parti, 2ème poteau, attention Maxence Prévost qui va pas y aller. Ça a été rabattu par Jean Ruiz là, joueur prêté par Sochaux justement dans le petit filet extérieur de Maxence Prévost qui était pas allé. On est dans le temps additionnel hein, de cette première mi-temps et il n'y arrive absolument pas. Les Sochaliens, ils sont très frustrés, il y a de plus en plus de tension, même au moindre coup de sifflet de monsieur Ben Chabat, dont ils ont le sentiment qu'il est injuste, même si ça n'est pas forcément toujours. Eh bien ils sont là, ils râlent, ils pestent, et là on voit un geste complètement raté, une talada de Sissoko là qui se loupe complètement alors qu'il y avait peut-être un coup à jouer avec Kaloulou. Ils n'y sont pas, il va falloir que Olivier Guégan trouve les mots justes, peut-être les changements justes aussi à la mi-temps pour que ces Sochaliens reviennent dans cette partie, parce que pour l'instant ils n'y sont absolument pas. Ils vont peut-être quand même suivre Gaëtan Weisbeck à l'entrée des 16 mètres là-bas sur le côté gauche, le retrait vers Skelia Alvero qui va essayer de centrer, peut-être la reprise de Sissoko, ça va passer au-dessus avec pas beaucoup d'entrain cette frappe là. On va sans doute aller à la mi-temps avec ce score, il reste 1 minute 10 à jouer dans le temps additionnel. Pau mène 2-0 à Sochaux.
Monsieur Bredov, est-ce qu'on peut rappeler les autres scores en course?
Bien sûr, il y a eu des buts Benoît, il y a eu 2-0 pour Caen, le CSC de Chergui après l'ouverture du score d'Alexandre Mendy, donc Caen qui mène 2-0 face au Paris FC. Guingamp mène toujours 1-0 face à Amiens. Rodez mène toujours 1-0 également face à Laval, le buteur c'est Corridor. Et il y a eu un but également entre QRM et Dijon en faveur des Normand, 1-0 grâce à Bangré pour la deuxième de Pascal Dubras. Ça s'annonce compliqué hein, pour Dijon qui est 18e du championnat.
Johan, moment important dans cette fin de saison de Ligue 2, pénalty pour le Havre sur la pelouse de Nîmes, la faute de Benoît Poulain sur Jamal Thiaré. Il me semble, le pénalty est confirmé, de toute façon il n'y a pas d'arbitrage vidéo en Ligue 2. Carton jaune pour le défenseur nîmois, c'est important évidemment puisque ça peut être une très belle opération pour le Havre d'aller gagner au Stade des Antonins ce soir. Bordeaux, le deuxième, a été lourdement giflé à Metz 3-0 cet après-midi. Là, c'était un tournant de la saison.
Il aurait pu prendre rouge, Benoît, s'il a pris
en plus. Ouais. La mi-temps à Sochaux. Ouais.
C'est la mi-temps à Sochaux, vas-y, Seb.
Ouais, rapidement, hein, voilà, les sifflets de Bonal, vous les entendez, 2-0, les Palois, eh bien, font le match qu'il faut pour l'instant pour perturber des Sochaliens qui ne sont pas dans un bon soir. 2-0, les buts de Sylvestre dès la 10e et de Begraoui à la 32e.
Merci, Sébastien. Tout à l'heure pour la seconde période. Le pénalty à venir pour les Havrais, vas-y, Johan.
Et c'est Victor Lécal qui va s'en charger de ce pénalty, le capitaine Havrais. On joue les 3 dernières secondes, hein, du temps additionnel, il y avait 3 minutes tout pile à l'instant, et le Havre qui peut mener 1-0 si Victor Lécal vient à tromper le gardien nîmois. Ça met du temps un petit peu à se tirer. Le Havre qui est tranquillement en tête hein, du championnat.
Le Havre en cas de victoire pourrait avoir 64 points, 9 points d'avance sur le 3ème.
Hein, ouais. Et oui, et il est frappé, parfaitement frappé le but. L'ouverture du score du Havre, Victor Lécal donc sur pénalty, le capitaine qui montre la voie, et 1-0 pour les Havrais au stade des Antonins sur la pelouse de Nîmes. Et on a dépassé le temps additionnel, fin de première période parfaite pour le leader.
Et la photographie du classement à l'heure où on se parle, à 19h49, le Havre leader 64 points, Bordeaux deuxième 56 points, troisième Metz 55 points, quatrième Sochaux 52 points et Bastia cinquième avec 51 points. D'ailleurs ton analyse Seb par rapport à tous ces résultats de la première période, il est là le bon coup finalement, il est pour les Havrais hein, qui avec cette victoire précieuse à Nîmes pourrait une nouvelle fois s'envoler vers la Ligue 1. Il restera plus que 7 matchs à disputer ensuite.
Hein. Ouais, il était pour les Messins dans l'après-midi et puis c'est vrai qu'en cas de victoire face à Nîmes 8 points d'avance et 9 points d'avance sur le 3ème c'est énorme, surtout qu'ils ont une fin de saison un peu tranquille, ils font beaucoup de matchs nuls, ils ont du mal à marquer. Bon, le match n'est pas terminé, mais si le score en reste là, et surtout Sochaux aussi qui galère vraiment face à Pau.
C'est la mauvaise opération de la soirée pour Sochaux qui menait 2-0 à domicile par les Palois. Je vous signale juste qu'en Angleterre 3-0 pour Manchester City contre Leicester, doublé d'Erling Haaland évidemment. 19h50, parole aux infiltrés.
Les infiltrés d'RMC.
Tous les samedis soirs, un joueur de Ligue 1 vient partager avec vous son quotidien. Nos quatre infiltrés cette saison, Dante, le capitaine niçois, Gauthier Gallon, le gardien de but royen, Adrien Thomasson, meneur de jeu lensois qui jouera ce soir au Parc des Princes, et Samuel Moutoussamy, milieu de terrain nantais, qui est en direct avec nous. Salut Samuel.
Salut.
Ça va Samuel, t'es en forme?
Ouais, ça va, en forme, super.
Bon, je rappelle que Nantes est 14e de Ligue 1, 5 points d'avance sur la zone rouge. Déplacement périlleux demain à Auxerre. Auxerre qui est 15e avec 2 points de moins que vous. Quel est l'état d'esprit dans le vestiaire des Canaries? Là, vous êtes prêts à aller au combat pour renouer enfin avec la victoire?
Voilà, c'est ça. On est prêts, on se prépare le mieux possible et pour faire un gros match. On sait à quel point ça va être difficile. Donc voilà, on se prépare à une grosse guerre.
Parce que le match, on rappelle, le match de dimanche dernier a été dingue pour vous. Vous receviez Monaco, vous avez été mené 2-0, vous avez fait 2-2, vous auriez même pu gagner. Est-ce que ça renforce justement la confiance et la solidité de l'équipe alors ?
Ouais, c'est ça. C'est quand on arrive à faire des performances comme celle-là, ça donne voilà de la matière pour les matchs qui suivent. Voilà, on sait qu'on a fait une mauvaise première mi-temps, mais la deuxième, elle était très très bonne. Et il faut s'appuyer sur des mi-temps comme ça pour aller chercher le maintien.
Comment tu expliques cette série qui est négative pour vous en Ligue 1? Parce qu'évidemment, entre-temps, il y a eu la qualif pour la finale de la Coupe de France. En championnat, c'est aucune victoire depuis le 12 février. 7 matchs sans succès, il y a eu 3 nuls et 4 défaites. Parfois, il y a eu de l'adversité, vous avez affronté les gros du championnat. Mais comment tu l'expliques, toi, cette mauvaise série, alors?
Ouais, c'est des séries compliquées. Après, on a vécu sensiblement la même chose au début du championnat. C'est quand on enchaîne les grosses équipes, on enchaîne les gros du championnat. Et après on a une petite baisse de confiance offensive où on marque pas assez et défensivement après ça s'effrite. Donc je pense que la progression de l'équipe elle est vraiment sur ça. Il faut qu'on arrive à rester plus solide et être plus régulier. Et voilà, on a pêché sur cette solidité ces derniers temps malgré les belles performances en coupe et cette dernière performance contre Monaco qui je pense est très constructive.
Ouais. Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain nantais, est en direct avec nous sur RMC dans le cadre des infiltrés. Tu le disais, Nantes est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Ce sera le 29 avril, ça arrive très vite face à Toulouse. Est-ce que le match est déjà dans les têtes? Entre-temps, il y aura ce déplacement à Auxerre, il y aura la réception de Troyes. Est-ce que malgré tout, inconsciemment, vous êtes tenant du titre en plus, donc vous savez ce que c'est que d'aller au Stade de France. Est-ce qu'on y pense déjà, Samuel?
Forcément, on y pense un petit peu. On y pense un petit peu parce que voilà, c'est une échéance énorme pour nous. Mais là, on est vraiment concentré sur les deux prochains matchs de championnat. On sait à quel point le maintien est vital pour nous et vital pour le club. Donc là, on est vraiment focus sur le championnat. Et je sais que tout le monde pense pareil. On sait à quel point les matchs, ils sont vraiment importants.
Parce que le contexte la saison dernière était différent. Vous étiez plus à l'aise en championnat. Donc la finale a pu se préparer plus sereinement. Là, tu sens vraiment une différence cette année ?
Ouais, il y a une différence, c'est certain, parce que l'année passée en championnat, on était plutôt large par rapport au maintien. Voilà, il y avait une très belle saison aussi en championnat, on faisait pas mal d'exploits contre des gros, etc. Donc on avait plus de confiance en quelque sorte. Par contre, c'est pas plus mal de se sentir en danger avant la finale, parce que c'est ce qui va faire qu'on va être encore plus concentré. Et qu'on va se préparer vraiment sans relâchement pour la finale. C'est avec des matchs pareils, des gros matchs pour le maintien, qu'on va on va se préparer le mieux possible pour la finale.
C'est quoi le discours, Samuel, d'Antoine Comboiré dans ces cas-là? Est-ce que justement il vous met en garde si jamais certains veulent se protéger entre guillemets, se préserver en vue de la finale? Est-ce que il tiendra compte des performances dans ces matchs de championnat pour l'effectif, plutôt pour le 11 qui va démarrer en Coupe de France?
Ah ça, par rapport au 11, j'ai aucune certitude. Je sais absolument pas comment il réfléchit par rapport à l'équipe. Par contre, je sais quelle est la mentalité du staff et quelle est notre mentalité pour les matchs à venir. Et on est absolument pas en train de se relâcher par rapport au match de championnat. C'est impossible. Le maintien est plus important pour nous que la Coupe de France. Et ça, tout le monde le sait. Si on gagne la Coupe de France, mais que l'année prochaine on est en Ligue 2, voilà, ça a pas de sens. Donc on est focalisé vraiment sur le championnat et cette Coupe de France, on y pensera quand ça sera la semaine du match.
Bon, toi, c'est pas parce que Thierry Veilla est forfait pour la fin de saison que tu te dis que ta place est acquise, quoi.
Absolument pas. En plus, d'ailleurs, j'ai beaucoup de peine pour Pedro pour qui ça doit être très difficile, mais on va le soutenir et il va revenir encore plus fort.
Samuel, l'actualité sur RMC, c'est une soirée spéciale, c'est ce choc de Ligue 1 ce soir entre le PSG et le RC Lens. Le PSG est leader, le Lens est deuxième ce soir au Parc des Princes, coup d'envoi 21h. Il y a 6 points d'écart au coup d'envoi entre Parisiens et Lensois. La dynamique des ch'tis est meilleure que celle des Parisiens. Comment tu vois ce match, toi qui es un acteur de la Ligue 1? Est-ce que tu le vois équilibré? En tout cas.
Ouais, ça va être un match très équilibré. On sait que Paris en ce moment, ils sont un peu en demi-teinte. Donc ça va être un match très très accroché. Je pense que les Lensois sont vraiment morts de faim pour aller chercher Paris sur la fin de saison, leur mettre la pression.
Donc je pense que ça va être un très très gros match.
Bon, tu veux nous donner un pronostic ?
Un pronostic ? Allez, pour mettre du suspense sur la fin de saison, je mets une victoire de Lens de 1.
Ok, bah voilà, c'est noté. Bah merci Samuel, on verra si t'es okay. bon en pronostic. Et pas en tout cas, problème. On te souhaite un bon match demain à Auxerre, bon match au FC Nantes. Okay. On le suivra ensemble d'ailleurs, merci on sera beaucoup. En direct. Auxerre-Nantes à suivre dès 15h sur RMC. Merci Samuel, à bientôt. Okay.
Merci beaucoup.
19h56 sur RMC, voilà le pronostic de Samuel Moutoussami pour le choc qui vous attend ce soir. PSG Lens en direct sur RMC à partir de 21h, mais l'avant-match, c'est dans moins de 3 minutes sur RMC avec Thibaut Giangrande, évidemment, en direct du Parc des Princes. Salut Thibaut.
Mais salut. Benoît, pars pas trop loin, hein, parce que la journée n'est pas finie, toi, tu sais. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Alors parce que l'after, en direct du parc jusqu'à minuit, qu'est-ce qui se passe après,
après la libre antenne, oui. avec Julien Cazard, voilà, Julien Cazard, qui sortira du Parc des Princes, qui viendra pour une heure en direct et sans interruption pour la libre antenne.
Mon
ça
Dieu.
Promet d'être fantastique.
Oups, Jeannot est micro ouvert. Jeannot Rességuier, Roland Courbis, on est en direct du Parc des Princes, l'after dans un instant. On vous attend 32-16 dès maintenant pour vivre ensemble cette rencontre décisive à 21h. On vous donne les compos là, dès qu'on les a dans quelques minutes. Jeannot est au taquet, là je le vois sur son téléphone. L'after tout de suite sur RMC, soirée exceptionnelle à vivre ensemble.
RMC Intégral Foot.